La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Quelle est la finalité ultime de l'éducation ? Vivre en société, en démocratie ? Être un carriériste ? Non, c'est la contemplation. Contempler, telle est la finalité ultime de l'éducation. Le projet paraît bien ambitieux. Non, si on regarde bien que le plan spéculatif et le plan pratique restent indissociés en philosophie réaliste et que la finalité de l'homme, c'est la contemplation de Dieu dans la patrie, étant donné que nous sommes in via sur terre, l'éducation doit mener à la contemplation. Alors Maritain est très concret. Il va nous donner plusieurs exemples de contemplation ou de moyens pour arriver à cette contemplation après ce que nous avons pu voir dans les semaines précédentes, l'acquisition de la liberté, l'éveil de la personnalité dans toutes ses potentialités en vue du bien commun sans jamais dissocier individu et personne. Maritain propose des règles dans son recueil pour une philosophie de l'éducation et la quatrième règle expose différents exemples historiques. Voici la règle. Elle demande que l'enseignement libère l'intelligence au lieu de la charger. En d'autres termes, que l'enseignement aboutisse à la libération de l'esprit par la maîtrise de la raison sur les choses apprises. Le père de Pascal, qui fut l'instructeur de son fils, aimait à invoquer une maxime qui me semble à ce propos très significative. Gilberte Pascal, la sœur de Blaise, écrit « Sa principale maxime dans cette éducation était de tenir toujours cet enfant au-dessus de son ouvrage, ou maître de son ouvrage. Et ce fut par cette raison, continue-t-elle, qu'il ne voulut pas commencer à lui apprendre le latin, qu'il n'eut 12 ans. Afin qu'il le fît avec plus de facilité. Et c'était là une grande innovation dans la pédagogie française de ce temps. Il empêcha également son fils, aussi longtemps que possible, d'apprendre les mathématiques. Il lui cachait les livres de mathématiques et s'abstenait de discuter de questions mathématiques avec ses amis en présence de l'enfant, car il savait que la mathématique est une chose qui remplit et qui satisfait beaucoup l'esprit et qui gagne aisément une trop forte domination sur lui. Il se méfiait du platonisme. Les mathématiques devaient prendre une belle revanche sur ce sage éducateur. Personnellement, je vous citerai Jean-Sébastien Bach, qui, pour ses élèves, donnait 3 morceaux. Un facile, justement, où on puisse être au-dessus, maître de son morceau. Un moyen, pour progresser. Et un éminemment difficile, pour savoir qu'il nous restait du chemin à parcourir. L'interdiction, finalement, de faire les choses trop tôt, permet à l'esprit d'être libre. Jacques Maritain va citer un autre exemple, celle de saint Thomas. La règle de saint Thomas, pour ses études personnelles, était de ne jamais laisser derrière lui une difficulté non résolue. « Assurez-vous toujours, disait-il aux étudiants, que vous comprenez réellement ce que vous lisez ou ce que vous entendez, et évitez de discourir sur n'importe quoi. » Il avertissait aussi les maîtres, ce conseil était déjà nécessaire pour les éducateurs de son temps, de ne pas creuser devant les pas de l'étudiant un fossé que vous omettez de combler. Il savait que soulever des doutes habiles aimait mieux chercher que trouver et poser des problèmes sans jamais les résoudre, ce sont là les grands ennemis de l'éducation. N'oublions pas que Jacques Maritain n'a jamais voulu faire de thèse, tout simplement à cause de l'esprit hegelien, finalement, de la dialectique très formelle qui sévissait dans l'université. Et pour lui, ce n'était pas l'ordre de la pensée. Cette critique absolue de voir une contradiction, les prémices, les présupposés, ne lui semblait pas une bonne méthode, mais presque un jeu sophiste ou intellectuel. Il poursuit ainsi, après les exemples de saint Thomas et de Blaise Pascal, en résumé, ce qui est enseigné ne devrait jamais être reçu passivement ou mécaniquement comme des informations mortes qui alourdissent et émoussent l'esprit. Cela doit au contraire être transformé par une compréhension active en la vie même de l'esprit et fortifié ainsi celui-ci, comme le bois jeté dans le feu et transformé en flamme, rend le feu plus fort. mais une grosse masse de bois mouillé et jeté dans le feu ne sert qu'à l'éteindre. Une raison qui reçoit la connaissance d'une manière servile ne connaît pas réellement, et elle est seulement déprimée par une connaissance qui n'est pas la sienne, mais celle des autres. Au contraire, une raison qui reçoit la connaissance en l'assimilant vitalement, c'est-à-dire d'une manière libre et libératrice, connaît réellement et est exaltée dans son activité même par cette connaissance qui désormais est sienne. C'est alors que la raison maîtrise vraiment les choses apprises. Vous avez remarqué le lexique qui part finalement de réel, réellement, qui passe ensuite par vital pour arriver par exalté. En somme, la philosophie réaliste est une philosophie organique et non pas un système. Et cette organicité débouche sur la joie. Et la joie est déjà l'antichambre de la contemplation. Où trouve-t-on, dans les pages sur l'éducation, une description finalement de la contemplation ? Eh bien, dans des exemples d'école. Maritain va ici rentrer dans une salle de classe et voilà comment il la décrit. S'il est question de l'atmosphère de la salle de classe, la contemplation, en un sens, et spécialement en ce qui regarde de jeunes enfants, viendra en premier. Dans les classes montessoriennes, qui obéissent aux deux règles fondamentales du silence et de l'effort personnel, le comportement des enfants change complètement. Ils bougent en travaillant, mais sans s'agiter. Et ils deviennent si concentrés et si absorbés dans leurs tâches que le visiteur de ces classes silencieuses est surpris d'avoir l'impression d'un climat monastique. Madame Hélène Loubienska de Lanval fait remarquer que ces enfants révèlent simplement, dans un milieu approprié, la capacité contemplative propre à la première enfance, entre 2 et 8 ans. Ils sont contemplatifs, dit-elle, en ce sens qu'ils sont capables de fixer longtemps leur attention en s'absorbant dans une admiration désintéressée, sans explication verbale. Celle-ci surgit en son temps après une longue maturation silencieuse. Leur contemplation s'apparente à l'inspiration poétique. Et parce qu'elle se produit le plus souvent devant des objets qui représentent les dimensions et les nombres, je l'appelle pythagoricienne. Cette faculté contemplative est chez l'enfant un phénomène passager. Elle disparaît à mesure que la pensée discursive remplace la pensée intuitive. Il n'en subsiste pas moins quelque chose, car ceux qui en ont joui une fois montrent dans les années suivantes de remarquables pouvoirs d'attention. Les extraits sont tirés de La contemplation silencieuse chez les enfants, publié dans la revue Nova et Vetera en 1951, page 193 pour les lecteurs et auditeurs qui aimeraient s'y reporter. Contemplation. Et vous avez repéré dans ce texte finalement la différence entre intuition, la pensée intuitive, et pensée discursive. Vous avez là le germe de ce qui fera finalement la loi naturelle chez Maritain et le droit naturel, c'est-à-dire cette co-naturalité qui permet, par intuition, par une vision finalement très profonde, de comprendre la loi, par exemple Abraham dans le sacrifice d'Abraham. Ou Antigone, quand elle dit à Créon « Je ne suis pas née pour la haine mais pour l'amour et tes lois ne peuvent prévaloir contre les lois non écrites et éternelles des dieux. » Donc ici, on a, toujours dans cette organicité de la philosophie réaliste, un pont qui va se développer chez Maritain dans la loi naturelle. L'éducation a pour finalité ultime la contemplation.
La philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Finalité ultime de l'éducation, la contemplation. Maritain est aussi quelqu'un qui va appeler la jeunesse, il va lui parler. Et dans cet écrit, pour une philosophie de l'éducation, publié juste un an après les événements de mai 68, il termine par un appel, une adresse à la jeunesse. Pour conclure mes présentes réflexions, je voudrais dire ceci à la jeunesse. Le monde qui a faim non seulement de pain, mais de la parole de vérité qui libère, le monde a besoin de vous. Il vous demande d'être aussi courageux dans les luttes de l'intelligence et de la raison que dans les batailles où l'homme risque sa vie sur terre, sur mer et dans les airs. Ce que votre intelligence et votre raison doivent conquérir est quelque chose qui ne se mesure et ne se manipule pas avec des instruments scientifiques, mais qui est saisi par la force de la vision rationnelle qui prend naissance à partir de ce que vos yeux voient et de ce que vos mains touchent. Un univers de réalité qui rende votre pensée vraie en vertu de cela même qu'elles sont, et non pas simplement par l'effet d'une action qui réussit. C'est l'univers de l'être intelligible et de la valeur sacrée de la vérité comme telle. Alors vous montrerez au monde comment l'action humaine peut être réconciliée avec un idéal qui est plus réel que la réalité et peut être pénétrée par lui, et pourquoi il est possible et raisonnable de mourir pour la liberté. Maritain est à l'opposé de tout empirisme, de tout pragmatisme, de tout activisme. N'oublions pas que dans les années 30, il écrit avec Raissa des œuvres à quatre mains, Oraison et Contemplation, Les frontières de la poésie, où le maître mot, c'est que finalement, l'action naît de la contemplation. Si la finalité ultime de l'éducation, c'est la contemplation, la finalité de l'éducation n'est pas l'action. Elle est au contraire de faire advenir les potentialités profondes du cœur de l'homme, d'un cœur qui est unique en vertu de la valeur absolue que représente la personne. Maritain, dans ses lignes sur l'éducation, ne peut pas dissocier finalement le plan pratique du plan spéculatif. La seule différence qu'il faut faire entre ces deux plans, c'est la différence de fin. Il s'agit de connaître l'être dans le plan spéculatif par le concept, et il s'agit de faire dans le plan pratique avec ces deux dimensions, la partie artistique où l'on crée une œuvre et la partie morale, pratique, dont l'éducation dépend ou dont elle est une partie ou une sous-partie comme la politique. Et il s'agit là de vivre, et on ne peut pas avoir ou créer sans être. C'est un mot de Goethe qui dit « nous devons être quelque chose avant de faire quelque chose » et ce mot a été repris par Maritain plusieurs fois. En fait, une éducation démocratique n'est pas une éducation qui inculque des slogans démocratiques aux enfants et les enrégimente pour la démocratie. Maritain écrit « une éducation démocratique est une éducation qui aide les personnes humaines à se former elles-mêmes, à juger par elle-même, à se discipliner elle-même, à aimer et à estimer les grandes vérités qui sont la racine et la sauvegarde de leur dignité, à respecter en elle-même et chez les autres la nature humaine et la conscience, et à se conquérir elle-même afin de gagner leur liberté. » Ce grand idéal est articulé sur l'idéal de la métaphysique, sur la quête de la vérité. Maritain insiste sur cette unité de l'intellect spéculatif et de l'intellect pratique. Il écrit « C'est une grande infortune qu'une civilisation et une éducation souffrent toutes deux d'une scission interne entre l'idéal qui constitue leur raison de vivre et d'agir et qui implique des choses en lesquelles elles ne croient pas, et la réalité selon laquelle elles vivent et agissent, mais qui refusent l'idéal qui les justifie. Toutes les démocraties modernes souffrent d'une telle scission interne. La tâche et la mission de la jeunesse est de résoudre ce problème à ses propres risques, et de réunir le réel et l'idéal, est de faire que la pensée et l'action se meuvent d'un seul mouvement. Cet enjeu est grand et avec 50 ans de distance, on peut souscrire à ces lignes. Maritain parle de crise de la civilisation. Pour lui, il n'y a pas de philosophie de la vie et de la société, et c'est pour cela qu'il y a une crise de civilisation. Il voit plusieurs symptômes dans la crise de l'après-guerre. Il n'y a pas de redressement intérieur après le phénomène de perversion foncière présenté par le nazisme. Il y a une contamination des méthodes hitlériennes, emploi de la torture pour l'obtention de renseignements. Mais la suprême gravité, la voici. C'est l'absence totale chez les peuples libres d'une philosophie de la vie et de la société qui leur soit propre et qui fonde en raison leur aversion du totalitarisme de droite ou de gauche et la totale absence simultanée d'un idéal dynamique assez puissant pour diriger l'action. Un livre comme « Humanisme intégral » où, pour mon humble part, je tâchais de remédier un peu à cette absence d'une philosophie démocratique authentique a été aussi mal lu par les gens de gauche que détesté par les gens de droite. Comment faire ? La grande épreuve d'aujourd'hui, pour Maritain, c'est la technocratie, a fortiori 50 ans après ces lignes. Comment en sortir ? Maritain dit que le seul moyen, c'est de connaître les réalités ultimes pour transcender la technocratie. Notre besoin et notre problème crucial est de redécouvrir la foi naturelle de la raison en la vérité. Pour autant que nous restons des hommes, nous gardons cette foi dans notre instinct subconscient, mais nous l'avons perdue dans notre raison consciente, parce que des philosophies erronées nous ont appris que la vérité est une vieille notion hors d'usage. Nous pouvons ainsi comprendre quel conflit intérieur affaiblit aujourd'hui la démocratie. Son énergie motrice est de nature spirituelle, la volonté de justice et l'espérance en l'amour fraternel. Mais sa philosophie a longtemps été le pragmatisme qui est incapable de justifier une foi réelle en une inspiration spirituelle. Et les philosophies aujourd'hui à la mode, existentialisme, structuralisme ou la phénoménologie érigée en système, en sont encore plus incapables. Vivre dans un état de doute en ce qui concerne non les phénomènes, mais les réalités ultimes dont la connaissance est une possibilité naturelle, un privilège et un devoir pour l'intelligence humaine, est vivre plus misérablement que les animaux qui tendent au moins avec une certitude instinctive, solide et allègre vers les fins de leur vie éphémère.
La philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Pour en terminer sur les réflexions sur l'éducation de Jacques Maritain, nous propose-t-il concrètement une nouvelle école ou un lieu d'éducation ? Oui. S'agit-il d'une utopie ? Non. Voici ce qu'il propose, pratiquement au centre du recueil « Pour une philosophie de l'éducation ». C'est intitulé, c'est dans le chapitre « Pour une philosophie de l'éducation, les humanités et l'éducation libérale », il s'agit d'une école de sagesse. Je ne me sens pas qualifiée pour discuter la question d'un autre point de vue que celui de ma propre foi religieuse. Parlant donc du point de vue catholique, je dirais que ce qui me semble spécialement requis par notre temps est la création de centres d'instruction spirituelle ou d'écoles de sagesse, dans lesquels ceux qui aiment le recueillement pourraient mener une vie commune durant quelques semaines, apprendre les voies de la vie spirituelle et de la contemplation, et cette science de la perfection évangélique qui est la partie la plus élevée de la théologie. L'immense trésor des écrits et des doctrines des grands auteurs spirituels et des saints qui composent la tradition mystique de la chrétienté depuis les Pères du désert jusqu'à Saint Jean de la Croix et les mystiques des temps modernes seraient ainsi mis à leur disposition. Ils pourraient se familiariser à la fois avec la connaissance théologique appropriée à ces questions et avec l'histoire, la personnalité et les enseignements de ces héros de la foi et de l'amour dont l'appel, ainsi que dit Bergson, traverse l'humanité comme une puissante aspiration vers Dieu. J'imagine ces écoles comme des maisons d'hospitalité et de recueillement qui seraient fondées sur l'intégrité d'une foi religieuse et d'une conception de la vie pratiquée dans leur pureté, mais qui seraient ouvertes non seulement à ceux qui partagent cette foi, mais aussi à tous ceux qui désireraient passer là quelques jours de rafraîchissement spirituel et apprendre ce qu'ils ignorent. Ceux qui auraient pour tâche d'assurer la continuité de la vie et de l'enseignement dans ces écoles de sagesse y demeureraient en permanence. Les autres en seraient les hôtes et s'y rencontreraient à intervalles réguliers. En ce qui concerne en particulier la jeunesse, les étudiants et les autres jeunes gens et jeunes filles qui ont chaque année des vacances et qui aimeraient en employer une partie de cette manière, pourraient passer quelques jours ou quelques semaines dans ces asiles de paix. Je suppose que le nombre d'étudiants fréquentant ces écoles ne serait pas minime. Utopie ? Non, pas vraiment. C'est au contraire un profond réalisme, une solution qui est proposée pour notre temps, où finalement l'éducation est mise à mal par les pandémies, la pandémie du corona. Et c'est peut-être un appel pour ceux qui voudraient proposer de manière élastique, fluide, dans un espace-temps tout à fait novateur, une attention au réel et un appel à la vie contemplative. Maritain termine ainsi ses réflexions avant de passer à un autre chapitre et il l'intitule « Notre responsabilité envers la jeunesse » et c'est sur ces lignes que je voudrais terminer notre parcours avant de retrouver la semaine prochaine Jean-Christophe Ronet pour un débat contradictoire où on peut peut-être reprocher à Maritain d'avoir trop une vue chrétienne de l'éducation, mais l'accomplissement de l'homme pour lui se fait dans la vision de Dieu. Voici les dernières lignes de Maritain sur lesquelles je vous laisse. Je voudrais marquer que c'est avant tout en pensant aux besoins, aux exigences et aux droits de la jeunesse, et spécialement de la jeunesse contemporaine, que j'ai conduit toute ma discussion. J'aime et respecte la jeunesse d'aujourd'hui et je la contemple avec un étrange sentiment d'angoisse. Ils savent quantité de choses concernant la matière, les faits naturels et les faits humains, mais presque rien concernant l'âme. Tout compte fait, leur conduite morale, bien que plus ouvertement relâchée, n'est pas d'un niveau plus bas que celui de la génération précédente. Ils ont une sorte de candeur confiante qui déchire le cœur. Au premier regard, ils apparaissent très proches de la bonté de la nature telle que Rousseau rêvait d'elle, car ils sont bons, sans doute, et généreux et libres. Et ils manifestent dans les actions nobles comme dans les actions immorales une sorte de pureté qui ressemble à l'innocence des oiseaux et des chevreuils. En réalité, ils en sont juste au moment où les structures acquises de la tradition morale et religieuse ont été dispersées et où l'homme continue encore à jouer avec son héritage. Leur nature nue n'est pas la pure nature, mais une nature qui, depuis des siècles, a été fortifiée par la raison et la foi et accoutumée aux vertus, et qui est maintenant privée de tout soutien. Ils sont debout dans leur bonté, ne reposant sur rien. Comment leur résistance sera-t-elle éprouvée dans le dur monde de demain? Qu'est-ce que seront leurs enfants? L'anxiété et la soif montent chez nombre d'entre eux, et cela même est une raison d'espérer.